vrai, derrière cette chair, c'est un privilège. Merci à l'équipe des responsables de m'avoir sollicité. J'ai accepté ce service avec joie, oui, c'est vrai. Je suis un peu transpiré parce que c'est pas facile. Je suis plutôt du type des gens abondants et je ne veux pas disert. Mais enfin, j'essaierai de faire ce que je dois. Et alors j'aimerais dire, avant même de commencer, mais ça va dans trois fils de ce que nous avons chanté et surtout de ce que nous avons vécu, exprimé, découvert dans le dernier message. La plupart étaient là probablement. Je suis revenu extraordinairement émerveillé. Et Claude était émerveillé, je crois que nous tous étions émerveillés. Vous vous rappelez peut-être, c'était la fin du livre d'Ésaïe, où le prophète annonce que la gloire de Dieu va se trouver maintenant déplacée, elle reviendra sur le peuple juif tout à la fin des temps, mais avec le Messie, elle va se déployer dans le monde entier. À tel point même que, dans sa précision, il nous signale les pays où, en tout cas, au début, va se produire cette merveilleuse révélation de Dieu, c'est le bassin de la Méditerranée. On va même jusqu'en Espagne. Et ça m'a énormément touché. Pourquoi ? Parce qu'en plus, le prophète nous dit qu'il y aura des émissaires juifs qui vont faire pratiquement réaliser ce dessein. Et un de ces émissaires, c'était, bien entendu, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a été, on l'avait vu dans le culte précédent, arrêté, retourné, redirigé par Dieu, par Jésus-Christ lui-même. L'apôtre Paul qui avait reçu de ce fait, dans ce grand dessein de Dieu, sa feuille de route. Et c'est ce dessein de Dieu que je trouve, que nous trouvons tous extraordinaire. Et le passage de 1 Timothée que nous allons parcourir, elle s'inscrit directement dans le plan de Dieu. Et dans ce plan de Dieu, révéler sa bonté, sa gloire, sauver le monde par son Fils. Alors l'apôtre Paul a été, comme il le dit lui-même, et il le dit encore dans notre texte, il a été le héros de cet évangile, le prédicateur de l'évangile, il était l'apôtre, celui qui a institué, établi des églises, l'apôtre des nations, des païens, tous les non-juifs, et puis il était aussi l'enseignant, le docteur, celui qui a donné vraiment l'enseignement fondamental qu'il fallait aux églises et qui nous est resté, un dépôt extraordinaire donné par Dieu qui est la base même de notre foi. Et cet apôtre, évidemment, qu'il avait des soins pastoraux, il avait consacré toute sa vie à permettre que le Seigneur ouvre des cœurs, il fallait suivre les gens, suivre les églises. Et aujourd'hui, nous serons exhortés, on peut dire, dans le cadre d'une église ancienne, l'église d'Éphèse. Vous vous souvenez de l'épître à Timothée. Timothée est délégué par son patron, si on peut dire, par son apôtre auprès de l'église d'Éphèse parce qu'il y a des difficultés. On ne veut pas s'allonger sur ces difficultés. C'est comme dans toutes les églises, on peut dire que dans tout ce que Dieu établit, eh bien, il y a des contre-attaques finalement que Paul discerne de Satan qui veut au fond tout désagréger. Alors dans cette église, il y a des gens qui enseignent des voies fausses. L'église tourne en rond, discussion oiseuse, probablement dispute. Il y en a même qui ont perdu la foi. Alors l'apôtre Paul est intervenu en personne avec Timothée qui était son collaborateur. Il a remis un peu au pas ces personnes qui s'étaient égarées et puis il a laissé là son apôtre, on peut dire, son délégué apostolique plus exactement, pour continuer le travail. Alors voilà, maintenant on va ouvrir ce... Voilà, donc nous allons parler, comme Séverin nous l'a dit, de l'intercession pour tous les hommes. Alors on va simplement lire le texte. J'exhorte, et vous m'entendez bien, ça va. J'exhorte donc, en tout premier lieu, avant toute chose, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréé, plutôt qu'agréable, cela est bon et agréé devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'étais moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens, dans la foi et la vérité. Puis il poursuit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, se parent, non pas de tresses, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient des femmes qui font profession de piété. Alors vous avez remarqué, je crois qu'il faut le dire d'emblée, que c'est une prière communautaire. Il y a d'abord l'exhortation générale, et puis il y a ceux, finalement, à qui ça s'adresse pratiquement, hein. Il y a des hommes et des femmes. Je pense que ça, c'est très important. Et puis le deuxième point qui m'a frappé il y a quelques années, comment faut-il comprendre, en tout premier lieu, on pourrait dire aussi avant tout, à prier pour tous les hommes, pour ceux qui occupent une fonction importante, et puis la suite. Pourquoi est-ce qu'il insiste tellement avant toute chose? Est-ce que ça concerne les problèmes de l'Église que j'ai fait de citer? Oui, sans doute. Sans doute, c'est peut-être le moyen de remédier à une situation où certains se sont tellement éloignés qu'ils ont perdu la foi, où l'amour s'est refroidi, il le dit aussi. Oui, certainement. Mais je pense quand même que cette priorité qu'il donne n'est pas seulement à titre de redressement de l'Église, mais elle est fondamentale. Je crois qu'en regardant les textes assez près, on en est assez rapidement convaincu. D'ailleurs, finalement, c'était retenu comme cela pratiquement par tout le monde. Alors, voilà. Avant toute chose, comme si ce service-là de l'Église était primordial, comme s'il y avait une hiérarchie humaine dans ce que les responsabilités ou les actes que Dieu nous confère ou les activités même pratiques de l'Église. Et ceci m'a interpellé. Les petites indications qui vont suivre me paraissent expliciter clairement cela, et on pourra peut-être chacun tirer des conclusions pour nous-mêmes, pour l'Église, pour notre vie, je peux dire, privée. Vous remarquez que ces prières sont des prières communautaires, des prières ferventes et des prières qui sont multiples. On ne peut pas entrer trop dans les détails. C'est des prières qui s'adressent, au fond, au Dieu Sauveur. C'est des prières qui s'adressent dans des situations concrètes qui ne sont pas données ici. Requêtes, c'est l'idée de quelque chose de pressant, d'important. Il y a un besoin très important. Et puis aussi, intercession, eh bien, c'est l'idée qu'on sollicite Dieu. On se présente devant Dieu, à la limite même, je ne veux pas dire qu'on lui demande un rendez-vous, mais à la limite, on ose pouvoir, on s'adresse à Dieu directement. Et ces prières sont ensuite accompagné et en même temps d'actions de grâce. Tout cela, finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive lorsque nous adorons le Seigneur, nous réalisons, comme on l'a dit au début ce matin, par exemple dans la nature, sa grandeur, sa puissance. Lorsque nous venons l'adorer ici, nos prières vont s'élever, vont être diverses. On ne pourra pas mettre des mots exacts sur le style théologique, si vous voulez, mais ça va faire un ensemble où finalement l'esprit en nous va exprimer toutes sortes d'aspects pour les prières que nous adressons, dans les prières que nous adressons. Alors, il me semble que pour bien comprendre le texte, il faut retenir la perle qui est au centre, le soleil qui illumine ce texte, le soleil qui a illuminé l'apôtre Paul, quand il dit « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Je remercie le Seigneur et l'apôtre Paul. Il nous a donné ce qu'il avait au plus profond de son cœur. C'est cela qui l'a mû dans toute sa vie. C'est cela qui lui a permis de réaliser sa feuille de route, cette feuille de route qui lui était confiée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Lui-même a fait cette expérience bouleversante. Hein? Lui, si moi, Paul, persécuteur d'Église, je peux me présenter devant Dieu, je peux être réconcilié, je peux commencer une vie nouvelle, alors qui ne le pourra pas? Qui ne sera pas atteignable par ce Dieu? Et c'est cela qui, je crois, permet, si on saisit un peu dans son cœur, c'est cette déclaration magnifique. Cette déclaration, c'est la volonté de Dieu. Esaïe, justement, l'a annoncé. C'était le plan de Dieu. Ça dépasse même le peuple juif. En lisant l'Ancien Testament, on se rend bien compte que c'est aussi pour les autres nations. Maintenant, ça s'est réalisé. Et comment ça s'est réalisé? Eh bien, pas moins que par le sacrifice du Fils de Dieu. C'est un mystère extraordinaire. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. En rançon, ça veut dire qu'il nous a rachetés. Il a racheté l'homme du péché, du pouvoir du péché, de la mort, de cette puissance maléfique de Satan qui a tout détraqué dans l'histoire humaine. Il nous a délivrés de cela. Et comment? Eh bien, par un sacrifice, pas en payant une rançon quelconque, mais par le sacrifice de sa vie. C'est un mystère, ce n'est pas le lieu de méditer là-dessus, mais je pense que si nous venons dans cette église tous les dimanches, si nous faisons notre culte personnel, nous sommes finalement attirés, nous revenons à ces points fondamentaux. Cet amour de Dieu extraordinaire. Et maintenant, alors ça nous permet peut-être de préciser, Dieu veut que tous les hommes, il faut prier pour tous les hommes, pour les rois, etc., mais tous les hommes. Alors on comprend mieux si l'on prie. Et puis si l'on se promène à la place Chaudron, si on se promène à la Migros, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces Albanais? Ces dealers, qu'est-ce qu'ils vont venir, ces types avec ces attachés caisses, un peu hors ces financiers, hors de la vie, dans leur petit milieu? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces Roms qui mendient? Qu'est-ce que vont devenir mes copains d'Uni, mes anciens copains, vos copains? Est-ce que aussi Dieu les aime? Est-ce qu'il y a aussi une possibilité? Oui, on le sait intellectuellement. Mais je trouve que justement, ce texte nous ravive notre souci de ces personnes, nous donne envie de prier, nous sommes interpellés par cet appel tous les hommes. Ça ne veut pas dire l'humanité en bloc, parce que ça c'est abstrait. On ne peut pas prier pour l'humanité en bloc. Seul Dieu prie pour l'humanité en bloc. Nous, on ne peut pas, mais on a le cœur, on a les yeux bouleversés. Tout ce qui se passe en Syrie, alors ailleurs, partout, cette situation qui se dégrade. Que pouvons-nous faire? Eh bien, on demande au Seigneur, interviens d'une façon ou d'une autre. Alors, d'ailleurs, ça s'est réalisé de tout peuple, de toute nation. On l'a dit, Claude l'a dit dans sa prière. Ça s'est déjà réalisé. Nous sommes ici multiples. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des beaux, il y a des laids, etc., etc. Et ceci nous appelle. Puis ensuite, alors, Paul, il continue, il dit, pas seulement tous les hommes, mais il y a encore des gens qui méritent qu'on se soucie d'eux. Les rois à l'époque, c'était l'empereur, il ne faut pas oublier. C'était Néron à l'époque, et puis les rois de les locaux, tous ceux qui occupent une position supérieure. Alors c'était bien entendu dans ces textes, comme dans Romains 13 aussi, où on parle du rôle des magistrats, etc. C'était dans ces textes, au fond, l'État, les représentants de l'État. Mais comme tout se tient, il est clair que... Ça s'adresse aussi, cette prière, pour tous ceux qui ont des responsabilités particulières. Ça s'adresse à mon pasteur, pour mon pasteur. Ça s'adresse pour mon patron. Ça s'adresse pour mon prof. Ça s'adresse pour le doyen de l'uni. Ça s'adresse pour les parents, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander ? Pour ces gens-là, en particulier les serviteurs de l'État, eh bien entendu, comme pour toute l'humanité que j'essaie de décrire, qu'ils rencontrent le Seigneur. Ça paraît peut-être gros, mais c'est fondamental. Si je prie pour Madame Leuthard, qui est en mission quelque part, je pense aussi à Monsieur Burkhalter, je lui demande au Seigneur d'aider. Sa tâche est très difficile. Dans ce conflit en Ukraine, il n'est pas seul, mais c'est presque une mission impossible. Si un magistrat important à Lausanne doit s'occuper des toxicomanes de la Laripone, ce qui me bouleverse, ce qui nous bouleverse, que faudra-t-il faire? Comment prier? Alors ces gens-là ont besoin, primordialement, mais ça va peut-être se réaliser tranquillement. Ils ne vont pas venir ici un dimanche, « Ah, voilà, j'ai rencontré le Seigneur. » Mais c'est quand même bien une prière fondamentale, on est bien d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on va demander? Bien, toutes sortes de choses. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit. Les magistrats, ils ont été donnés par Dieu. Le principe même de l'autorité, c'est que l'autorité exercée, c'est-à-dire des autorités, le principe même est un cadeau de Dieu. Dans tout organisme vivant, il y a des structures, même dans la cellule, d'après le peu de biologie que je crois savoir. Dans l'univers, c'est le soleil. Sur d'autres planètes, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Même ça, il y a des hiérarchies, il y a un ordre. C'est l'ordre créationnel, perturbé d'ailleurs par Satan, mais auquel Dieu veut quand même être fidèle. C'est son alliance. Alors, c'est pour cela que les magistrats qui incarnent humblement ce cadeau de Dieu, dans Romains 13, Paul les appelle serviteurs. Vous êtes serviteurs de Dieu. Vous venez pas vous servir, vous. En servant la communauté, on peut prier qu'ils aient un esprit de service. Vous servez Dieu, ils ne le savent pas tous. Mais voilà quelque chose qui est aussi fondamental. Quels critères aurons-nous dans notre société? L'autorité, eh bien, par la séparation des pouvoirs, c'est aussi les parlements, c'est l'ordre judiciaire. Alors quel sera l'étalon, quel sera le critère pour distinguer le bien du mal? Paul dit dans Romains que Dieu, le serviteur, le magistrat, doit avant toute chose, ça paraît un peu sommaire, mais c'est très profond en fait, doit avant toute chose favoriser l'œuvre bonne, favoriser le bien, l'approuver, et puis punir l'œuvre mauvaise, le malfaiteur, le mal. Alors quel sera le critère? Quels seront les critères? Quelles seront les lois? Paul ne le dit pas. Cependant, on peut penser que c'est ce qui est dans la conscience de tout homme. Il dit que quand les païens qui ne connaissent pas la loi font la loi, font les œuvres bonnes prévues par la loi parce qu'ils écoutent ce qu'il y a dans leur conscience, ben voilà, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans cette petite méditation. Mais enfin, ça veut dire que les personnes qui sont responsables doivent pouvoir aussi écouter leur conscience, être honnête, être droite. On peut allonger toute cette liste de qualités, mais c'est fondamental, on est bien d'accord. Alors, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, s'il y a, à la limite, pas de loi, s'il n'y a plus d'autorité, même des autorités médiocres, voire mauvaises, dit Paul, eh bien, s'il n'y a plus d'autorité, on ne peut plus vivre. Ni les chrétiens, ni personne. Voyez ce qui se passe en Syrie et ailleurs. C'est partout ce qui est en train de s'établir. Alors, je ne veux pas allonger, mais ce qui est fondamental par rapport maintenant à cela est bon de agréer devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés, c'est que s'il y a une certaine paix sociale, si les chrétiens, ceux qui connaissent vraiment Jésus-Christ, peuvent vivre en toute piété. Qu'est-ce que c'est toute piété? Eh bien, toute piété, c'est être conséquent dans tous les domaines de sa foi. C'est honorer Dieu pratiquement dans tous les domaines. Alors ça peut être des domaines où justement on ne va pas rencontrer l'approbation. Hein. Ceux qui veulent marcher, vivre selon la piété, dit Paul, aussi dans Timothée, seront persécutés. Alors ça arrive, et malheureusement ça arrive maintenant. Et puis, en même temps, ces chrétiens qui sont là, ils doivent vivre en dignité. Dignité, ça veut dire que je suis rempli de la grandeur de Dieu, je suis mon Sauveur, j'essaye d'être conséquent dans ma foi, je suis digne parce que je porte le nom de chrétien faiblement, mais j'essaye d'être digne et je serai reconnu comme tel. Ma parole aura du prix, on aura confiance en moi, on reconnaîtra que je suis quelqu'un qui essaye de suivre Dieu. Pour finir, même ceux qui voudraient me tuer, c'est encore dans la Bible, pourront bien reconnaître un jour, quand ils rencontreront le Seigneur, que c'était vrai. Donc j'ai investi à long terme. Alors voilà, on se rend bien compte maintenant dans quel contexte général tous ceux qui sont responsables ont besoin de notre prière. Une prière communautaire, une prière fervente et puis aussi une prière persévérante. Et peut-être c'est ça le plus difficile. Est-ce que je voudrais dire encore, pour finir, c'est que ceci nous met devant une grande responsabilité. Claude Becher nous a dit, notre feuille de route est aussi celle de l'apôtre Paul, c'est-à-dire d'être des témoins, où que nous sommes, très simplement, dans quelques fonctions que nous exerçons dans la société, être des témoins collectivement. Et puis là, il y a comme un codicille, ou une annexe, mais absolument parallèle, presque la même chose, à cette feuille de route, c'est que, avant toute chose, je crois qu'on peut dire vraiment, l'Esprit de Dieu nous dit, posez comme base à vos vies, non seulement à la vie communautaire, on le sait très bien, on prie beaucoup pour les uns pour les autres, on agit aussi en conséquence, comme on peut, mais non seulement pour la communauté, la prière doit être une base, mais pour le monde. Lorsque nous sommes dans notre culte, je ne sais pas si ça vous fait comme ça, mais quelquefois, je vous dis franchement, on loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. C'est vrai, c'est la base. Mais quelquefois, j'ai envie de dire, Seigneur, merci. Et d'ailleurs, nous faisons ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait pour les hommes. Comme on l'a dit, tous les hommes, tu les aimes. Ton plan, c'est de sauver chacun. Alors notre prière s'élève, nous adorons Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour chaque homme. On voit défiler ces marginaux, ces Albanais, tous ces gens que j'ai un peu pris comme ça au hasard. On les voit défiler, on les adresse à Dieu. Notre prière d'adoration devient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que finalement c'est le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut. Et bien il nous donne cette même orientation fondamentale. Alors nous découvrons peut-être mieux que le deuxième aspect de notre feuille de route, c'est justement cette intercession communautaire. Il faut ajouter aussi, c'est dans les Éphésiens 6, que dans les armes, fameuses armes de la foi, si vous regardez bien le texte, les traductions sont souvent un peu incertaines parce qu'on veut rendre plus léger le style, mais si vous regardez bien le texte, la prière, c'est l'arme fondamentale. Si on ne la pratique pas, et le monde est dans un combat, nous sommes aussi des combattants pour le monde parce que nous sommes embarqués avec tout le monde finalement. Eh bien, si on ne pratique pas cette prière dans ce combat, une arme fondamentale manque. On le sait bien pour nos missionnaires, ouais, on prie pour eux, on prie réellement. Je ne dis pas qu'on ne prie pas. Mais une prière aussi ciblée, pratiquement cela existe, bien entendu, dans notre Église. Mais j'ai fait une proposition où je relève de ce qui existe. Une incitation, il y a des groupes de quartier qui existent pour prier pour le quartier, pas d'abord pour nous-mêmes, pour le quartier. Il y a des groupes qui prient pour les musulmans, spécifiquement les musulmans, c'est chaque homme, tous les hommes. Il y a des groupes, je connais un groupe qui prie pour les Albanais ensuite. Alors, grâce à Dieu, toute cette prière existe. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est légitime que dans nos cultes, notre adoration, notre culte à Dieu, comme dans notre culte de petits groupes, débouche, c'est consubstantiel même à notre foi sur cette prière. Alors voilà, que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir patiemment écouté. Ça n'a pas été court et bon, c'était long et moyen.
Merci Pierre, en effet, c'est beau ces cultes d'été finalement, parce que ça permet de mieux connaître aussi chacun d'entre nous. Et là, nous sentons chez Pierre un amour extrêmement grand du Seigneur et en même temps une souffrance que tout le monde ne lui appartienne pas. Merci Pierre de nous faire porter ce fardeau, ce fardeau mais qu'on peut quand même déposer parce qu'on a mis dans la liberté, mais c'est un fardeau qui est bienveillant pour les autres. Et ça m'a touché de voir, je sais quelle émotion tu as prêché et prié. Tu as prêché ce matin. Nous allons poursuivre dans cet esprit de prière par des temps de prière matin communautaires dans la bonne suite, pour pas tout simplement aussi juste dire oui c'était moyen, comme je disais, je pense que c'était pas moyen. Nous allons justement maintenant consacrer du temps à vivre ce temps de prière. Nous aurons un temps de prière pour nos autorités, ça a été longuement évoqué par Pierre, pour ceux qui ont des responsabilités, c'est vrai qu'il est bon de pouvoir s'en sentir épaulé,